Vous écoutez On lit pour vous.
Harold Paillé a continué à donner des conseils aux blessés médulaires toute sa vie. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Harold Paillé a passé 49 ans en fauteuil roulant, presque toute une vie. À 72 ans, son fauteuil est devenu son outil de marche. C'est comme mettre une paire de chaussures. Je ne pense plus que je suis en fauteuil, décrit-il simplement. Pour Harold, les premières années sont les plus dures. Une fois passé 5 ans sans trop de difficultés, un blessé médulaire sera correct pour vivre une belle vie. Au moment où Harold Paillé a eu l'accident qui l'a rendu tétraplégique à l'âge de 23 ans, la réadaptation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était surtout être en mesure de rester assis dans son fauteuil, raconte-t-il. De nos jours, les blessés médulaires se trouvent assis rapidement, mais dans les années 1970, Harold explique que les patients passaient beaucoup de temps alités. « Pendant 4 mois et demi, j'avais une traction à la tête. Je ne pouvais pas du tout bouger. Si je m'asseyais trop vite, je perdais connaissance. Le physio me basculait tout de suite en arrière », décrit Harold. L'ergothérapie en était à ses balbutiements. On fabriquait des orthèses pour tenir un crayon. On assemblait des petits blocs. Après 6 mois, je suis sortie de réadaptation. Je n'étais pas capable de m'habiller moi-même, explique le blessé médulaire. Du côté psychosocial, il se décrit comme un cobaye. Le psychologue développait son expertise avec nous. Je le trouvais décourageant. L'autonomie retrouvée. Harold a réellement retrouvé son autonomie lors de son séjour de 6 mois au centre de réadaptation Lucie Bruno. Avant d'y être admis, le jeune homme de 23 ans est retourné 9 mois chez ses parents, dans une maison pas du tout adaptée, loin de la ville. « Mon père a mis 2 ou 3 ans avant de faire une rampe. Il était persuadé que j'étais pour remarcher », se souvient Harold. Après son passage en réadaptation, le jeune homme n'a plus quitté Montréal. Il s'est installé seul en appartement, sans aucun service. Il était un des premiers tétraplégiques au Québec à le faire. Il faisait son ménage, ses repas, son épicerie, sa lessive. Harold faisait aussi beaucoup de sport, ce qui lui a permis de développer force et endurance. Dans les années 1980, il a démarré une ligue de rugby en fauteuil. Il faisait aussi de la course. « Comme je tombais souvent, j'ai appris à me transférer à terre et à remonter sur mon fauteuil. Les médecins n'auraient jamais pensé que je serais capable de faire ça, surtout pour un quad. Cette force m'a été bien utile pendant 40 ans », raconte Harold. Un marathon en fauteuil. Le sportif a participé à de nombreuses compétitions. À l'époque, les médecins étaient très prudents, surtout avec les personnes tétraplégiques. « J'ai fait un 400 mètres. Les docteurs étaient là pour prendre ma pression, mes signes vitaux. 3 ans plus tard, je faisais un marathon. J'étais fonceur et curieux. » Quelque temps après sa sortie de Lucie Bruno, le jeune homme s'est mis en couple avec Marie-France, une jeune physiothérapeute rencontrée au centre lors des nombreuses activités sociales organisées à cette époque avec les résidents. Mariés 1 an plus tard, ensemble depuis 47 ans, le couple a adopté un enfant du Guatemala. Aujourd'hui, à 37 ans, leur fils est infirmier. « Nous sommes choyés de l'avoir. Il s'occupe beaucoup de nous », déclare Marie-France, toujours présente aux côtés d'Hérol, dans leur résidence privée pour personnes aînées de La Salle. Conseiller à l'APQ, puis directeur. Harold a été contraint de travailler pour vivre car il n'était couvert par aucune assurance. Son accident de voiture est survenu en 1977. La Société de l'assurance automobile du Québec a été créée 1 an plus tard, en juin 1978. À 25 ans, il a commencé à travailler pour l'APQ, l'Association des paraplégiques du Québec, en tant que conseiller, après avoir été recruté par Marie Trudeau et René Massé, qu'il connaissait à travers le sport. Harold a beaucoup aimé aider les autres. « Je suis resté conseiller toute ma vie après ça. Je donne toujours des conseils aux gens, même si j'ai été payé seulement 10 ans pour le faire. C'est naturel chez moi. J'aime écouter, faire parler les gens. » Harold est resté impliqué dans le milieu du handicap toute sa carrière. Il a été directeur des services de l'APQ, directeur général, puis est entré au conseil d'administration. Son engagement dans de nombreux comités et tables de travail l'ont fait connaître à travers la province, ce qui lui a ouvert les portes d'autres organisations. Des années 1980 à 2000, tous les blessés médulaires du Québec me connaissaient à travers mon implication, affirme-t-il. La mobilisation pour les fauteuils ultralégers et les centres d'expertise. L'activiste a été l'acteur et le témoin de nombreuses transformations dans la société. Il a rencontré le ministre de la Santé en 1982 et il lui a fait essayer son fauteuil roulant ultraléger pour qu'elle constate la différence avec les fauteuils très lourds, les seuls remboursés par la régie de l'assurance maladie à ce moment-là. Pendant ce temps, une centaine de fauteuils faisaient grève devant l'Institut de réadaptation de Montréal pour obtenir le droit à ces fauteuils-là. La création des centres d'expertise de Québec et de Montréal dans les années 1990 a été marquante pour Erol. L'APQ luttait depuis 20 ans pour ce projet. Erol a représenté l'association dans le comité d'experts qui a accrédité les centres avant leur ouverture. Il a insisté sur l'amélioration du pôle psychosocial au Centre de Québec avant de l'accréditer un an plus tard qu'à Montréal. Erol garde également en tête la rédaction, le financement et la publication du guide « Vivre avec une lésion médulaire ». J'en suis fière. Je dirais que c'est mon legs à la PQ, décrit Erol. Un tel ouvrage n'existant pas ailleurs au Canada, l'Association canadienne a ensuite racheté les droits d'auteur, traduit le guide en anglais pour le distribuer dans tout le pays. Des acquis à préserver. Citation. Aujourd'hui, on pense que le transport adapté, les trottoirs et les bâtiments accessibles sont des acquis, mais ce n'est pas vraiment ça. Je sais qu'il y a encore à faire, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu de gains. Aujourd'hui, on est des citoyens comme les autres. Les blessés médulaires peuvent sortir, retourner aux études, avoir un emploi, faire du sport et des activités sociales. Fin de citation, déclare l'activiste qui se souvient s'être souvent fait dévisager comme un extraterrestre ou donner des pièces dans la rue. En 2014, la réforme du Dr Barrett a mis un frein définitif au travail d'Erol. Alors président du Centre de réadaptation Lucie Bruno, et travaillait depuis 4 ans à la fusion de l'IRGLM et du Centre Lucie Bruno. Tous les projets ont été annulés. Erol et Marie-France ont alors pris une retraite bien méritée et voyagé pendant 7 belles années l'hiver dans le sud en véhicule récréatif motorisé adapté. C'était Erol Paillé a continué à donner des conseils aux blessés médulaires toute sa vie. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Protéger l'un des derniers écosystèmes boréaux de la planète n'est peut-être pas si simple. Un texte de Milton Brianna du Canada's National Observer, paru le 10 juillet 2026 dans Le Devoir. L'un des derniers écosystèmes boréaux presque intacts de la planète est sur le point d'obtenir une protection au Manitoba. Mais cette protection comporte aussi sa part de risque, préviennent des spécialistes. Le projet vise à soustraire le bassin versant de la rivière Seal, une région isolée du nord du Manitoba, au développement et à l'exploitation des ressources en créant 2 parcs, l'un provincial et l'autre national, sur un territoire de 50 000 km carrés. Les gouvernements du Manitoba et du Canada collaborent avec 4 Premières Nations afin que toute mesure de protection privilégie également une utilisation durable du territoire par les populations qui en dépendent. Toutefois, dans un contexte d'accélération des changements climatiques, certains spécialistes estiment que la création de ces parcs dans la forêt boréale et l'activité humaine qu'elle entraînera inévitablement pourraient accélérer la dégradation du bassin versant situé à quelques 1 000 km au nord de Winnipeg, à l'ouest de la baie d'Hudson. un bassin versant quasi intact. À l'heure actuelle, le bassin versant est considéré comme intact à 99,97%, pratiquement vierge de toute intervention humaine. Comme les forêts boréales peuvent emmagasiner et filtrer d'importantes quantités de carbone, les spécialistes soutiennent que la protection de ces forêts et du bassin versant est essentielle dans la lutte contre les changements climatiques. Consciente de cet enjeu, la Seal River Watershed Alliance, SRWA, qui représente les intérêts des communautés autochtones de la région, estime qu'il existe une occasion unique de mettre à profit les connaissances du territoire et les valeurs de gérance des Premières Nations afin de limiter les impacts sur leurs terres ancestrales. Reste toutefois à déterminer comment gérer le territoire à mesure que le tourisme prendra de l'ampleur, tout en préservant l'intégrité de l'écosystème. Le projet prévoit la protection de l'ensemble du territoire au moyen d'un modèle de conservation dirigé par les Autochtones. Les deux tiers de la superficie seraient désignés parc provincial et le tiers restant deviendrait un parc national. Le gouvernement fédéral a lancé une consultation publique par l'entremise de Parcs Canada afin de recueillir les commentaires de la population sur cette proposition. Environ 81% des répondants se sont dit favorables au projet, y voyant une occasion de préserver l'écosystème et la biodiversité du bassin versant. D'autres estiment qu'il favorise la réconciliation entre le Canada et les Premières Nations concernées. Les Premières Nations des Saïsidéné, des Northlands Denisolin, des Barrenlands et des Opiponapiwin Cree collaborent avec les gouvernements au sein de la SRWA. Malgré cet appui marqué, 42% des répondants s'inquiètent de la capacité de Parcs Canada à protéger les espèces en péril et leurs habitats. Ils s'interrogent notamment sur l'application des règles et de la réglementation qui encadreront les visiteurs et le personnel des parcs. Afflux touristique. Si le projet bénéficie d'un solide appui local, certains universitaires invitent néanmoins à la prudence. Joost Rajahansson, professeur associé à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste de la géographie et du développement durable, estime qu'un afflux de visiteurs pourrait menacer l'équilibre de l'écosystème. Selon lui, tout milieu possède une capacité de support, c'est-à-dire un seuil au-delà duquel la fréquentation humaine entraîne une dégradation de l'environnement. Pour préserver la biodiversité tout en permettant au public de profiter du territoire, la SRWA et les gouvernements devront tenir compte de cette capacité de support au moment de planifier les infrastructures et de répartir les usages du territoire, soutient-il. Selon M. Rajahansson, une hausse de l'achalandage dans le bassin versant de la rivière Seal entraînera inévitablement certains risques. La directrice générale de la SRWA, Stéphanie Taurasi, affirme pour sa part que tout risque de dégradation environnementale devra être géré avec prévoyance par le comité de gestion conjoint réunissant la SRWA ainsi que les gouvernements du Manitoba et du Canada. Il n'est pas seulement question du milieu physique ou de la biodiversité. Il faut aussi considérer les répercussions sur les ressources dont dépendent les communautés, explique M. Rajahansson. Selon lui, les populations locales pourraient voir diminuer leur accès à l'eau, aux terres et aux autres ressources. Tout dépendra de la façon dont l'utilisation du territoire sera gérée. Bien souvent, le problème vient d'un manque de suivi, affirme Michael Campbell, professeur en environnement et géographie à l'Université du Manitoba. À son avis, réglementer et surveiller l'ensemble du bassin versant de la rivière Seal, plutôt qu'une simple portion du territoire, permettra de mieux protéger les milieux naturels au bénéfice des populations humaines et animales qui en dépendent. aucun projet d'infrastructure permanente. Stéphanie Taurasi, membre de la Première Nation des Sayissi-Déné de Tadoulé Lake, au Manitoba, indique qu'un plan de gestion et de gérance sera élaboré conjointement par tous les partenaires, puis appliqué dans la gestion quotidienne des parcs. Ce plan sera réévalué tous les 2 à 5 ans afin d'orienter les décisions futures en fonction des mesures qui auront donné les meilleurs résultats. Le bassin versant a été désigné aire protégée et de conservation autochtone, APCA, un statut qui nourrit l'espoir de Mme Taurasi de voir les décisions relatives à l'utilisation du territoire et aux activités autorisées s'inspirer des perspectives et des cultures des peuples qui occupent ces terres depuis des millénaires. Si certaines mesures semblent préoccupantes ou ne s'avèrent pas bénéfiques, nous les examinerons ensemble en tenant compte de la perspective autochtone autour de la table, dit-elle. Nous ne cherchons pas à limiter la capacité du gouvernement de prendre des décisions. Nous demandons simplement que ces décisions soient prises ensemble dans l'intérêt supérieur du territoire. Ainsi, si la construction d'hôtels ou d'autres bâtiments était envisagée, ou encore si la gestion des déchets s'avérait insuffisante, elle souhaite que les Premières Nations soient pleinement consultées et que la santé du territoire demeure la priorité. Mme Taurasi et la SRWA accueillent favorablement le développement du tourisme dans le bassin versant de la rivière Seal. À ce jour, aucun projet concret d'infrastructure permanente, comme des routes ou des bâtiments, n'est prévu. Les pavillons déjà en place devraient plutôt servir à accueillir les visiteurs. L'objectif est de limiter au maximum l'empreinte du développement afin que les activités touristiques causent le moins de dommages possibles à l'écosystème. Selon M. Raja Hansen, la fragmentation des habitats pourrait perturber les déplacements naturels de la faune. Ces recherches indiquent également que la capacité du territoire à filtrer les contaminants, à emmagasiner la chaleur et à se régénérer après des phénomènes comme les inondations, les sécheresses ou la pollution atmosphérique pourrait diminuer. Mme Taurasi espère pour sa part que les décisions qui seront prises reflèteront les valeurs et la vision qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Et si un projet ne cadre pas avec cette vision, je crois que nous choisirons de ne pas construire un immense complexe, des routes accessibles toute l'année ou d'autres infrastructures incompatibles avec ce territoire. Selon elle, les aires protégées et de conservation autochtones ne peuvent être gérées selon un modèle unique. Chacune reflète la culture, l'histoire et les traditions des Premières Nations qui y participent. Si d'autres APCA existent déjà ailleurs au pays, leur réussite repose, affirme-t-elle, sur la participation des communautés directement liées au territoire et touchées par les décisions qui le concernent. C'était « Protéger l'un des derniers écosystèmes boréaux de la planète n'est peut-être pas si simple », un texte de Milton Breanna du Canada's National Observer, paru le 10 juillet 2026 dans Le Devoir.
Ozempique, Wegovy, Mounjaro, les GLP 1 expliqués. Un texte de Florence Dujoux, paru le 9 juin 2026 dans Bel Âge. Les agonistes du GLP-1, glucagon-like, peptide 1, comme Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, qui aident à mieux contrôler la glycémie et l'appétit, font beaucoup parler d'eux. Sont-ils vraiment à la hauteur de leur réputation? Environ 8 % d'adultes canadiens, soit 3 millions de personnes, prennent un agoniste du GLP-1 sous ordonnance selon un sondage Léger publié en mars 2026. À ceci s'ajoutent les 6 % qui se disent intéressés par ces médicaments. Si l'engouement se révèle significatif au Canada, il est encore plus fort aux États-Unis, chez qui l'enquête recense 11 % d'utilisateurs déclarés et 12 % d'intéressés. Ce n'est pas rare que les patients me réclament de l'Ozempic en entrant dans mon bureau, témoigne le docteur Rémi Rabaza-Lorette, endocrinologue et vice-président de l'Institut de recherche clinique de Montréal, IRCM. Ce constat ne surprend pas Julie Larouche, infirmière clinicienne au Centre d'expertise en diabète du CHUM, qui souligne l'influence de la publicité et du bouche-à-oreille. Une double efficacité très recherchée. Cette nouvelle classe de médicaments imite le fonctionnement du GLP-1, une hormone naturellement présente dans le corps qui est libérée dans l'intestin après l'ingestion de nourriture. Elle stimule la production d'insuline par le pancréas, ce qui a pour effet d'améliorer l'absorption du glucose et de diminuer la glycémie. Ces molécules présentent l'avantage d'agir seulement si le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Cela évite les hypoglycémies sévères, qui constituent des complications sérieuses avec d'autres traitements contre le diabète, tels que l'insuline. C'est d'abord pour lutter contre le diabète de type 2 que les agonistes du GLP-1 ont été développés, rappelle le Dr Rabaza-Lorette, qui est aussi directeur du Conseil professionnel de diabète Québec. Par la suite, ces molécules ont fait la preuve de leur efficacité pour combattre l'obésité. Elles sont désormais indiquées par Santé Canada pour les patients avec un indice de masse corporelle, IMC, au-dessus de 27 et des comorbidités ou un IMC supérieur à 30. De plus, leurs propriétés ne s'arrêtent pas là puisque les études démontrent notamment des bénéfices cardiovasculaires et rénaux. Les médicaments GLP-1 ralentissent la vidange de l'estomac et contribuent à ce que le taux de sucre monte moins vite et moins haut. Ils agissent aussi sur le cerveau. Vous avez moins faim et quand vous mangez, vous êtes beaucoup plus rapidement rassasié, ce qui donne un effet positif sur le poids, résume le médecin. Autres effets. Les maladies cardio-métaboliques, diabète, troubles cardiaques, hypertension, hypercholestérolémie, mécanique, problèmes de genoux et de hanches et mentales liées au surpoids diminuent. Chez les utilisateurs, c'est la perte de poids qui constitue la première raison d'intérêt pour ces médicaments. Elle est citée par 58 % des répondants au Canada et 71 % aux États-Unis. Le diabète de type 2 et la réduction de risque de maladies cardiovasculaires complètent le palmarès de leur motivation. Des molécules à manier avec précaution. Un agonisme du GLP-1 n'est jamais prescrit en première intention, indique le Dr Rémi Rabaza-Lorette. C'est l'une des solutions possibles quand les bonnes habitudes de vie ne suffisent pas, mais celles-ci doivent absolument être maintenues lors de la prise du médicament. Autrement dit, manger sainement, bouger et dormir suffisamment, ainsi que bien gérer son stress, constituent des prérequis importants. Cette classe de médicaments ne convient pas à tout le monde. Chez certains diabétiques, ils peuvent aggraver des problèmes oculaires préexistants. Ils sont contre-indiqués en cas de cancer rare de la thyroïde et doivent être utilisés avec prudence chez les personnes qui ont déjà souffert de pancréatite, inflammation du pancréas. De plus, leurs effets varient significativement selon les molécules utilisées et les patients concernés. Dans les études, la perte de poids moyenne associée à l'Ozempic se situe autour de 6 % chez les patients atteints de diabète de type 2, tandis que celle obtenue avec le Wegovy chez des non-diabétiques est plutôt de l'ordre de 15 %. L'infirmière Julie Larouche a plusieurs histoires de réussite à partager. chez des patients qui se trouvaient en situation d'échec et à qui la médication a donné la motivation nécessaire. Les habitudes de vie conduisent à des succès modestes, mais avec ces médicaments-là, quand ça fonctionne bien, les résultats sont vraiment meilleurs, fait-elle valoir. Certaines personnes maigrissent trop, avertit cependant le docteur Rabaza Lorette. Chez les plus de 70 ans, la perte de poids peut entraîner celle de la masse musculaire requise pour les activités quotidiennes, auquel cas il faut réduire la dose, voire arrêter le traitement. Malgré tout, les agonistes du GLP-1 demeurent moins efficaces que la chirurgie bariatrique qui permet une perte de poids de 25 à 35 % selon la docteure Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine interne générale. Celle qui est aussi chercheuse à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'UCPQ, précise que ces différentes options thérapeutiques peuvent s'avérer complémentaires. Ce n'est pas rare que l'on ait recours à un médicament GLP-1 pour entraîner une perte de poids avant la chirurgie et parfois après, indique-t-elle. La littérature scientifique montre qu'une proportion significative des patients arrêtent les agonistes du GLP-1 à cause de leurs effets secondaires, dont les plus fréquents sont les nausées, les vomissements et les diarrhées. Commencer par de faibles doses, puis les augmenter lentement et privilégier une prise avant le coucher constituent les meilleures façons de limiter ces effets gastro-intestinaux indésirables. Selon Julie Larouche, certains patients peuvent aussi avoir des idées noires en raison de la perte du plaisir de manger ou de la fatigue entraînée par leur amaigrissement. Après l'arrêt de l'agoniste du GLP-1, environ 80 % des gens perdent les bénéfices associés et reprennent leur poids dans les 12 à 18 mois. Mais qui s'étonnerait de voir sa pression artérielle remonter après l'arrêt de sa médication contre l'hypertension? Devoir maintenir un traitement au long cours n'a rien de surprenant face à une maladie chronique. Si le diabète est reconnu comme tel au Québec, ce n'est pas le cas de l'obésité. Qu'elle soit considérée comme un problème purement cosmétique est une honte, s'insurge le docteur Rabaza Lorette. C'était Ozempic, Wegovy, Mounjaro, les GLP-1 expliqués. Un texte de Florence Dujoux, paru le 9 juin 2026 dans Bel Âge.